France Culture, avec philosophie, Aïda Ndiaye.
Spinoza est-il LE philosophe du bonheur? C'est le quatrième et avant-dernier volet de notre série de la semaine, Le bonheur ennuie-t-il les philosophes? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Potra. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez enseigné la philosophie à l'École normale supérieure et vous venez de diriger une nouvelle édition des œuvres complètes de Spinoza en Pléiade qui est apparue cette année. Et bonjour Pascal Sévrac.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris-Est Créteil et vous avez publié notamment « Puissance de l'enfance, Vygotsky avec Spinoza chez Vrin » en 2022. Bernard Potra, bonjour. Comme je l'ai dit, vous avez longuement enseigné la philosophie et longuement animé un séminaire consacré à Spinoza. Est-ce que on peut dire que la question du bonheur, appelons-le comme ça pour l'instant, même si nous verrons tout au long de cette émission que ce n'est pas le terme qu'emploie Spinoza en réalité, mais est-ce que cette question du bonheur anime toute l'œuvre de Spinoza?
Oui et non. C'est-à-dire que ça rend compte d'une bonne partie de sa quête, disons ça comme ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a chez lui une quête plus essentielle, en fait, je pense, qui est ce qu'il appelle la béatitude. Donc il faudra faire la différence entre les deux. Mais bien entendu en grande partie, c'est d'abord une recherche du bonheur au sens le plus habituel du terme, je dirais. C'est d'ailleurs pourquoi je m'étais permis, dans une quatrième de couverture, de qualifier l'éthique de machine à bonheur. Je ne renie pas du tout ce propos, qui entend rendre compte d'une part que la quête, c'est bien celle du bonheur, mais que d'autre part, c'est une machine. Donc ça, je pourrais m'en expliquer un peu plus au long. Mais aujourd'hui, après quelques années passées, je tiens à dire aussi que c'est une machine à béatitude.
Pascal Sévrac, est-ce que vous pensez aussi que l'éthique en particulier et l'œuvre de Spinoza est une machine à bonheur?
Oui, alors l'expression est particulièrement bien trouvée. Alors c'est vrai que je pense que les philosophes en général, et peut-être aussi Spinoza, ont peut-être un petit problème avec la question du bonheur, qui, vu de loin, paraît une question un peu molle, ou peut-être quelque chose d'indéfinissable, et peut-être aussi pris dans une perspective trop égoïste. Avant de venir, un ami m'a dit « Surtout, dis bien que chez Spinoza, le bonheur, c'est pas le développement personnel. » Oui, c'est pas une philosophie du développement personnel, et en même temps, on pourrait dire que si. D'une certaine manière, on va pouvoir comprendre le spinozisme comme un développement personnel si on comprend en même temps que l'altruisme est un égoïsme bien compris et qu'il n'y a pas de développement personnel qui soit complètement auto-centré et qui fait partie d'une certaine manière de mon accomplissement, de mon bonheur, que d'autres puissent en jouir aussi.
Mais développement personnel en quel sens? Parce que c'est un petit peu l'ennemi juré des philosophes, le développement
personnel.
Oui, bien
personnel.
Sûr,
c'est pour ça que je fais un peu de provocation.
Qu'il faut entendre par là, alors?
Je pense qu'il faut entendre par là quelque chose comme une affirmation de la puissance d'agir. Une puissance d'agir qui est celle de la pensée, mais aussi celle du corps. Donc, une affirmation aussi de la sensibilité sensorielle et affective dans toutes ses dimensions. Et c'est comme ça aussi que l'on pense, qu'on a des idées, des images du corps. Et il faut donc penser quelque chose comme un accomplissement qui soit le plus haut possible. Et c'est peut-être pas le développement d'une puissance en puissance, mais c'est le développement de toute sa puissance d'agir dans les dimensions, je dis sensorielles, affectives et bien sûr aussi intellectuelles.
Alors, avant de développer tous ces points, je voulais qu'on revienne un petit peu sur la vie de Spinoza et se demander justement comment cette quête, cette œuvre s'articule à une vie qui est une vie assez particulière, une vie relativement brève. Spinoza a vécu 49 ans et une vie un petit peu d'errance, de malheur. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Bernard Potrat?
Au fond de sa vie, on sait à la fois beaucoup de choses et rien. C'est ça qui me frappe maintenant, après avoir fréquenté tout ça. Par exemple, de la correspondance, on attendrait d'avoir des vues sur plus sur l'homme, sur le personnage et sur sa vie. Et en réalité, soit il n'y en a jamais eu des lettres comme ça, soit plus probablement elles ont été détruites par les éditeurs. Donc c'est très difficile de se faire une représentation au-delà de ce qu'on sait de manière, si j'ose dire, folklorique, c'est-à-dire polisseur de verre, etc., etc., gros travailleur, donc il faut quand même évidemment prendre conscience de ça. Quelle fut vraiment sa vie? Et par exemple, mon opinion est que le traité de l'amendement de l'intellect est son premier écrit. Et c'est le seul qui comporte un préambule qui est très très autobiographique et où il semble expliquer que s'il s'est mis à la recherche d'un bien qui soit un vrai bien, c'est parce qu'il a expérimenté, il utilise ce mot, il a expérimenté que les autres, à savoir les richesses, l'honneur et la lubricité, ne satisfont pas véritablement et même sont très périlleuses.
Alors je vous propose que nous écoutions tout de suite une lecture du texte que vous venez d'évoquer, le traité de l'amendement de l'intellect de 1677, qu'on connaît aussi sous le titre précédent, le traité de la réforme de l'entendement. Nous allons écouter un extrait lu par Jules Barbier.
Ce qui se présente la plupart du temps dans la vie, et qui, à en inférer de leurs œuvres, est estimé parmi les hommes comme le bien suprême, se ramène aux trois choses que voici. Les richesses, l'honneur et la lubricité. Ces trois choses tiraillent tellement l'esprit qu'il a le plus grand mal à penser à quelque autre bien. Toutes ces choses que poursuit le commun des hommes, non seulement ne nous sont d'aucun remède pour conserver notre être, mais y font même obstacle, et sont souvent la cause du trépas de ceux qui les possèdent, et toujours la cause du trépas de ceux qui en sont possédés. Très nombreux, en effet, sont les exemples de ceux qui souffrirent persécution jusqu'à la mort à cause de leur richesse, ainsi que de ceux qui, pour s'enrichir, s'exposèrent à tant de périls qu'ils finirent par payer de leur vie leur sottise. Et il n'y a pas moins d'exemples de ceux qui, pour obtenir ou défendre l'honneur, ont extrêmement souffert. Innombrables, enfin, sont les exemples de ceux qui hâtèrent leur mort par une excessive lubricité.
France Culture, avec philosophie, Aïda Ndiaye.
Je reviens vers vous, Bernard Potrat. Donc, vous disiez, en effet, dans ce texte, Spinoza parle de ceux qui se mettent en quête du bonheur, qui s'exposent à la mort, aux persécutions qu'il a lui-même connues, même s'il les a connues de manière plutôt postérieure à ce texte. Et vous dites dans l'introduction à votre édition des œuvres complètes de la Pléiade qu'il s'est mis dans cette quête du bonheur pour sauver sa peau, littéralement.
Il semble, ce début qui précède le texte qui vient d'être lu, le début de ce traité est d'une tonalité absolument dramatique. C'est impressionnant, c'est-à-dire effectivement, il semble en avoir bavé, mais on ne sait pas vraiment de quoi. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Simplement, ce qu'il a expérimenté dans la douleur manifestement, c'est que tous ces biens ne sont pas des vrais biens. Et le fil conducteur que vous évoquiez, c'est la recherche non pas du bonheur, mais d'abord du vrai bien, du bien suprême. Et alors il est absolument maximaliste, c'est ça qui frappe. C'est qu'il ne cherche rien de moins qu'une joie qui soit la joie suprême, une vraie joie pour l'éternité, c'est-à-dire qui soit expérimentée comme éternelle et qui puisse être communiquée à tous.
Oui, c'est ce qu'il dit en effet dans ce même texte, le traité de l'amendement de l'intellect.
C'est ça qu'il veut. C'est impressionnant, si vous voulez. On voit tout de suite que c'est une formule donc maximaliste du bonheur. Si c'est la recherche du bonheur, peu de gens disent qu'ils veulent le bonheur qui soit un bonheur éternel. Bon. Il y a donc là une dimension qui ne sera jamais perdue par lui. Et il cherche donc le souverain bien. En ce sens-là, il n'est pas le philosophe du bonheur, parce que tous ceux qui ont cherché depuis l'Antiquité le souverain bien ont fait exactement la même chose. Ils ont tous cherché le bonheur. Et la tripartition qui a été évoquée ici, elle est vieille comme le monde philosophique, si j'ose dire, occidental. Donc, il fait comme les anciens, comme les stoïciens, comme beaucoup d'autres. Et il cherche donc ce qu'on a toujours appelé le souverain bien, le bien suprême, mais lui, sous une forme qui est immense, si je veux dire, qui est infinie, en quelque sorte. Infinie parce que, éternel en général, on cherche le bonheur, on aimerait être heureux demain, ce soir, etc. Mais, alors il y en a qui cherchent le bonheur éternel aussi. C'est vrai, ce sont les catholiques particulièrement, ce sont les chrétiens. Mais qu'est-ce que s'il y a effectivement un au-delà, c'est pour jouir aussi éternellement de bonheur.
Et qu'est-ce qu'il faut entendre justement par ce terme d'éternité ? Alors, à ce stade de l'œuvre de Spinoza, dans ce texte, il n'est encore question de joie, pas encore de béatitude. Mais on trouvera dans d'autres textes un lexique qui renvoie, comme vous venez de le dire, à une dimension religieuse. Il parle de salut à la fin de l'éthique quand il parle de la béatitude. À quoi renvoie ce vocabulaire, Pascal Sévrac ?
Alors, ce que vient de dire Bernard est tout à fait juste. Ce qui est frappant dans ce début du traité de l'amendement de l'intellect, qui est du début des années 60.
C'est ça, et qui a été publié, c'est ça, en 1677.
Voilà, et qui a été publié en 1677 quand il meurt, vers 43-44 ans. Ce qui est frappant, c'est que, au fond, il nous dit, tout ce qu'on expérimente dans la vie de tous les jours est tout à fait relatif, est changeant, est éphémère, donc je cherche quelque chose d'absolu. Donc, on absolutise la recherche du bonheur alors que l'expérience est celle, d'une certaine manière, plutôt du malheur. On se demande en effet ce qu'il a bien pu expérimenter, peut-être d'un chagrin d'amour extraordinaire, peut-être la vanité des biens de ce monde. Mais c'est vrai qu'il prend ces trois choses-là. Alors, c'est quoi la lubricité ? On dirait le sexe aujourd'hui. L'argent. Et puis la reconnaissance sociale, le pouvoir, il a dû expérimenter ça de manière forte. Il a même essayé, dit-il, à la fois de chercher ce bonheur absolu et de continuer à jouir de ces trois-là. Et puis, à un moment, il fallait changer de vie, nous dit-il. Il faut changer de vie. Et ce qui est caractéristique de Spinoza, c'est que cet absolu, on le cherche pas dans un au-delà. On le cherche ici, maintenant, parce que d'une certaine manière, il n'y a que, c'est ce qu'on a appelé l'immanence chez Spinoza, il n'y a qu'un monde où on peut chercher le bonheur. L'immanence, c'est-à-dire que on n'est pas dans un système de la transcendance où il y aurait un monde au-delà de ce monde-ci.
À quoi pourraient nous faire penser pourtant les termes d'éternité et de salut ?
Mais ce qui est assez fantastique chez Spinoza, c'est qu'il s'agit de réinvestir cette terminologie théologique qui est justement investie de cet absolu, mais un absolu placé dans l'au-delà, il s'agit de le réinvestir pour une recherche immanente, c'est-à-dire qui demeure dans ce monde-ci.
Et d'ailleurs, allez-y, Bernard Potelin.
C'est pas seulement le salut qu'il sauve, si j'ose dire. C'est d'abord et avant tout Dieu. Je vous le rappelle. C'est-à-dire qu'il a gardé Dieu, il a gardé la piété, il a gardé la religion, qui sont des concepts précis avec des définitions précises et dont il pense que c'est bon. C'est-à-dire, piété et religion, ce sont des vertus, en quelque sorte. Ça fait partie de la vertu. Et donc, il a en effet réinvesti tout ça, comme le dit Pascal. Il doit y avoir des raisons à cela. Simplement, il faut ne pas oublier que, quand il dit Dieu, c'est pas... Nous avons tendance à le voir tout de suite là-haut avec sa barbe. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut opérer une conversion du philosophique. Et c'est là qu'apparaît à mes yeux le côté génial de Spinoza, qui est que, en tout cas, par exemple, en ce qui me concerne, on pourra toujours me sermonner pour m'expliquer ce que c'est que le souverain bien. J'aurai toujours tendance à m'en évader, parce que c'est un sermon. La géométrisation de l'affaire, c'est ça le côté machine. C'est que si on suit les démonstrations, alors on sera progressivement, si l'on est convaincu comme on est par l'Euclide, alors on sera peu à peu transformé. Et on sera, au bout du compte, avec un passage redoutablement difficile, on sera sauvé. Sauvé ici et maintenant. Hein. C'est pas, en effet, comme il n'y a pas de Dieu juge, il n'y a pas de Dieu roi, etc., forcément c'est ici.
Alors nous allons revenir sur la question de Dieu qui en effet a une signification très particulière chez Spinoza. Et je précise juste que vous parlez de géométrisation, d'Euclide, parce que l'éthique, dont nous reparlerons un petit peu plus tard si vous le voulez bien, a une forme à la manière des géomètres, dit Spinoza. Et donc c'est un ensemble en effet de démonstrations. Je voulais juste revenir sur ce que disait Pascal Sévrac, cette immanence dont vous avez parlé, et en même temps ce que nous avons lu dans le texte du traité de l'amendement de l'intellect, c'est-à-dire le refus des richesses, des honneurs, de la lubricité. Pour autant, on n'a pas chez Spinoza une ascèse. C'est pas du tout une vie, une recherche donc de la joie ou de la béatitude qui passerait par un refus des plaisirs. Il y a des très belles pages d'ailleurs dans l'éthique où il dit par exemple, c'est un homme sage de réconforter, de réparer ses forces grâce à une nourriture et des boissons agréables prises avec modération, et aussi grâce aux parfums, au charme des plantes verdoyantes, de la parure, de la musique, des jeux du gymnase, des spectacles, etc. Donc il y a cette dimension sensible dont vous avez parlé, Pascal Sévrac, qui est très importante dans cette joie, gardons ce terme pour l'instant, Bernard Potra.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Le seul point, je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire on tend à oublier tout ce qui concerne effectivement la multiplication des expériences du monde qui est en fait prônée par l'éthique. Oui, il faut avoir énormément de sensations, de perceptions. Toutes ces perceptions sont en quelque sorte fausses, mais c'est ça qui va nourrir le vrai qu'on va fabriquer à partir de là. Voir du monde, jouir de tout ce que vous venez de dire, oui, c'est bon. Je ferai quand même une réserve, et j'ai écrit tout un livre sur cette réserve, c'est que s'il y a une chose qui n'arrive pas véritablement à sauver, théoriquement parlant, c'est l'amour, c'est l'amour sexuel. Ça, manifestement, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle « Ethica sexualis », où simplement, en prenant les propositions qui concernent cet objet-là, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a d'abord de nombreuses bizarreries et que non, l'amour sous cet aspect-là et l'amour passion, etc., ça ne sert finalement. Soit c'est un délire, soit ça rend bête parce que ça limite justement le champ perceptif. Tout d'un coup, on ne voit que ça. On ne voit que la chose aimée et tout ce qui peut se rattacher à une espèce de confiture d'affect autour de la chose aimée. Et ça tourne mal. Soit ça tourne mal, soit ça, c'est pur délire. Donc ça, là, il continue à avoir un très grand problème avec cet aspect des choses. Alors que j'aurais tendance à dire que quand même, cette dimension-là est une véritablement dimension du bonheur, si je peux me permettre.
Et du malheur parfois aussi. Pascal Sévrac, vous vouliez...
Oui, je pense que effectivement, Spinoza est assez sensible à ces états d'absolutisation des choses. Parce que lui-même, justement, voit bien l'envers de son geste théorique qui consiste à chercher quelque chose d'absolu. Donc, il a fallu changer de vie parce que, dit-il, on ne peut pas à la fois absolutiser le sexe ou la richesse et la recherche de cette joie éternelle. On ne peut pas absolutiser les deux. Mais si on recherche cette joie éternelle et qu'on en jouit, ça ne signifie pas pour autant que les autres biens deviennent faux et que on va négliger complètement la recherche de l'argent, qu'on va négliger complètement de satisfaire certains plaisirs, etc. Donc, ce que Spinoza redoute, c'est le fait de, comme il dit, hein, c'est l'affect qui adhère tenacement. C'est cette tendance obsessionnelle à penser les biens de façon unique, de façon mono-idéique, comme disait un grand commentateur de Spinoza qui était Alexandre Matron. Donc, je serais peut-être moins sévère que Bernard avec la question de la sexualité. Peut-être qu'on peut encore la sauver, mais c'est vrai que dans la mesure où on a tendance à en faire quelque chose d'absolu, il est difficile d'en faire usage dans une perspective spinoziste, mais on peut en faire usage en tant que c'est un plaisir, un bien qui est subordonné à une recherche d'absolu qui, elle, se fera justement dans autre chose. Mais cette autre chose, c'est le réel lui-même. C'est Dieu au sens de la nature. Et le réel lui-même, si on l'aime, si on en jouit dans toutes ses dimensions.
France Culture, avec philosophie, Aïda Ndiaye.
Nous nous demandons ce matin si Spinoza est le philosophe du bonheur avec mes deux invités, Pascal Sévrac et Bernard Potra. Vous venez tous les deux de parler d'affect. Je vous propose que nous écoutions un son à ce propos.
Les affects que vous avez, qu'ils soient de malheur ou de joie, etc., vous les méritez, pas du tout au sens où vous avez fait tout ce qu'il fallait pour les avoir, mais c'est même pas ça. À savoir, les affects que vous éprouvez renvoie et suppose un mode d'existence immanent qui est supposé par les affects que vous éprouvez, et finalement vous avez toujours les affects que vous méritez en vertu de votre mode d'existence. Par exemple, les tragiques, la cohorte des dépressifs dont je parle, vous ne pouvez pas être dépressif au sens vraiment comme clinique du mot si même malgré vous, je le dis bien malgré vous, parce que tout ce dont je parle, je sais bien que ce n'est pas facile. Si malgré vous, vous n'avez pas attaché une certaine valeur aux valeurs du tragique et de la dépression et de la chute. Si vous vivez sur un mode où l'idée de chute n'a strictement aucun sens, je ne dis pas seulement aucun sens théorique, mais aucun sens vécu, vous pouvez éprouver des affects de malheur. Comme on dit, vous n'en ferez pas un drame. Vous ne pourrez pas y mettre une charge d'angoisse.
C'était Gilles Deleuze dans son cours sur Spinoza à l'Université de Paris 8 en 1981. Bernard Potra, qu'est-ce que c'est qu'un affect chez Spinoza ?
On a longtemps traduit ça par sentiment, donc c'est une façon de le dire très simple. C'est mieux, à mon avis, de traduire par affect, ce que je m'étais permis dans la traduction de l'éthique. D'ailleurs, je suis très content que ça ait été adapté sans problème, parce que j'arrivais après, en effet, déjà un long fonctionnement de ce concept, hein, autour de Freud, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un affect ? Eh bien, écoutez, vous devez le savoir vous-même. Quand vous riez, c'est un affect qui vous fait rire. Il n'y a pas besoin de chercher ce que c'est chez Spinoza plus que ça. Simplement, par exemple, il me tient assez à cœur, et à Pascal aussi, je le crois le savoir, de rappeler que on parle souvent des passions tristes. Alors, on est content de se dire, Spinoza, les passions tristes, il faut se débarrasser des passions tristes. Certes, mais quoi de plus naturel que d'essayer de se débarrasser des passions tristes ? Le vrai problème, c'est le problème de l'addiction qui était derrière les phrases de Pascal. L'addiction, c'est l'adhérence à quelque chose, l'adhérence à un objet. Et le plus grave, donc, ce sont les passions joyeuses. Parce qu'il y en a marre de toujours brandir Spinoza, la joie, la joie, la joie. Mais la joie, elle peut être mauvaise. C'est dit en propre terme dans l'éthique. Et en effet, par exemple, puisqu'il évoque ça, l'ivresse, n'est-ce pas ? On boit, ça commence à être pas mal, on boit un peu plus, c'est de mieux en mieux. On est joyeux. Et est-ce que c'est bon ? Non, c'est pas bon. Heureusement, le corps va faire le boulot tout seul, ça va arriver jusqu'à la nausée. Donc c'est comme ça qu'on va... Donc le vrai problème, c'est de se débarrasser des passions joyeuses. Pour moi, d'abord, parce que ce sont les plus menaçantes. Et en effet, l'amour, c'est ça, l'amour ordinaire, comme il dit, lui. On a une chose aimée, on l'aime, on est joyeux. Et oui, mais lui, il dit, oulala, il y en a plein qui sont allés au tombeau à cause de ça. Il faut savoir comment faire. Le problème est de savoir comment faire pour se débarrasser de ce dont il faut se débarrasser. C'est-à-dire, les affects, il en fait le catalogue, et ensuite il démontre ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Et là, je vous renvoie à l'appendice de la quatrième partie de l'éthique.
Oui, c'est ça. Comme vous dites, comment faire pour se débarrasser de ces affects? Parce que ces affects, ils reposent sur cette dimension importante pour notre sujet de la philosophie de Spinoza, qui est l'articulation du corps et de l'esprit, Pascal Sévrac.
Oui, alors ça c'est une grande question de Spinoza. C'est en effet comment lutter contre certains affects. Et on pourrait dire, la réponse est assez simple, il n'y a qu'un affect plus fort et contraire à l'affect qui est à contrarier, qui peut détruire l'affect dont on cherche à se débarrasser. Donc, ça va être un rapport de force entre affects. Il s'agit de produire des affects pour se débarrasser d'autres affects. Et donc, il s'agit de produire une joie telle que on ne sera plus en recherche d'autres joies qui sont insatisfaisante. C'est-à-dire que la passion joyeuse, elle est ambivalente. En tant que joie, elle a rien de mauvaise en elle-même. Elle est une augmentation de puissance. Mais en tant qu'elle est une passion, elle est aussi une négation de puissance. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à saisir, comment une augmentation peut être aussi une espèce de négation. C'est-à-dire, pas quelque chose de contradictoire, pas une diminution en même temps, mais quelque chose qui fait que ça ne sera jamais assez, et il y aura quelque chose d'insatisfaisant qui peut même ensuite se retourner contre soi. Dans les joies passionnelles, il y a une limite qui fait que ou bien on en cherche toujours plus en se rendant malheureux, ou bien ça se retourne contre soi parce que, comme l'a dit très bien Bernard, il y a des joies qui donne ensuite des nausées, des dégoûts et de profondes tristesses. Après la libido, la lubricité, dit Spinoza, vient une grande tristesse. L'esprit est émoussé. Donc il faut une joie absolue. Et la fin de l'éthique nous dira que c'est pas parce qu'on aura réprimé nos passions joyeuses qu'on pourra jouir de cette béatitude dont on parle depuis le début, de cette joie absolue. Mais c'est parce qu'on jouira de cette béatitude que du coup, on pourra un petit peu se défaire de nos joies passionnelles habituelles. Donc, c'est la jouissance d'un certain affect qui nous permet de nous débarrasser de ceux qui sont tentants, mais qui peuvent aussi se retourner contre nous.
Mais alors, j'ai deux questions. La première, c'est qu'est-ce que c'est que cette puissance d'agir? Qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement par cette idée que la joie, c'est un accroissement de notre puissance d'agir? Ça n'est pas un pouvoir de domination, mais qu'est-ce qu'il faut exactement entendre par là, en fait?
Alors, oui, la joie, c'est défini comme une augmentation de la puissance. Cette puissance, ça peut être celle de la jouissance d'exercer un pouvoir. Il y a des joies dans l'exercice du pouvoir, des joies de domination. Donc la puissance, quand elle s'exerce sur la puissance de quelqu'un d'autre, elle devient un pouvoir. Le pouvoir est une des modalités de la puissance. L'idée, c'est qu'on est plus fort avec les autres et pas contre les autres. Donc la puissance, elle doit s'allier les autres plutôt que de dominer les autres. Mais on peut souvent objecter à Spinoza, et Spinoza le sait très bien, la plupart du temps, on jouit à partir d'un pouvoir sur les autres. C'est d'une certaine manière une forme d'affirmation de sa puissance. Là où vous posez une question très intéressante, c'est que Spinoza hésite à appeler affect cette joie absolue, cette béatitude dont on parle depuis le début. Parce que l'affect, c'est une transition de puissance. Soit on augmente en puissance et on est joyeux, soit on diminue en puissance, on est triste. Ou soit la puissance, elle va vers un certain objet et on désire quelque chose. Voilà, soit on s'élève, soit on s'abaisse, soit on est polarisé sur quelque chose. Joie, désir, tristesse, c'est les trois affects primaires à partir desquels Spinoza prétend reconstruire toute la vie affective. Eh bien, la béatitude, c'est pas vraiment une transition, c'est la jouissance de notre puissance même. On pourrait presque imaginer qu'il est possible de jouir de la béatitude même dans une profonde tristesse, puisqu'on est toujours un peu puissant même quand notre puissance a diminué. Donc cette béatitude, c'est peut-être un affect de jouissance de son être, du réel en soi, qui ne s'accomplit pas forcément dans des vies de bonheur. Mais peut-être que quelqu'un de malheureux, et peut-être Spinoza l'a été, peut quand même être quelqu'un qui jouit d'une certaine béatitude, dans la mesure où On n'est plus dans la transition de puissance, mais on est dans la jouissance même de sa propre perfection.
Alors, nous sommes pris dans un réseau de détermination. J'en viens à ma deuxième question, qui est en fait toujours un peu la même, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait, en fait, est-ce que c'est un simple acte de volonté? Comment est-ce qu'on peut réussir à produire cette joie alors même que nous sommes pris dans ces liens de cause à effet dont parle par ailleurs très bien Spinoza? Nos auditeurs et auditrices connaissent peut-être la lettre à Schuller. Vous avez dit tout à l'heure, Bernard Potra, que l'éthique était une machine de bonheur, une machine à faire le bonheur, et vous avez tous les deux évoqué le développement personnel. Je vous propose qu'on écoute quelque chose et nous en reparlerons ensuite.
Il a fallu attendre Spinoza au XVIIe siècle pour qu'on ait un immense philosophe qui consacre sa vie à essayer de comprendre ce que c'était que la joie. Et Spinoza définit la joie finalement comme l'accroissement de la puissance vitale. Il nous dit « tout être humain fait un effort pour persévérer et grandir dans son être, et chaque fois qu'il progresse, il est dans la joie. Chaque fois qu'il régresse ou qu'il rencontre un obstacle qui l'empêche de s'accomplir, il est dans la tristesse. » Et donc il définit exactement la joie avec cette phrase « c'est le passage d'une moindre à une plus grande perfection ». Pour le dire autrement, chaque fois qu'on grandit, chaque fois qu'on progresse, chaque fois qu'on s'améliore, on est dans la joie. On le voit avec les enfants qui commencent à parler, qui commencent à marcher, il y a une joie immense, et chaque fois qu'on fait des progrès dans la vie, cette joie est là.
C'était Frédéric Lenoir dans La Terre au carré sur France Inter, le 30 décembre 2015. Il reprend en effet la définition de la joie par Spinoza, notamment dans le livre 3 de l'éthique. La joie est le passage de l'homme d'une moindre perfection à une plus grande. Alors, Bernard Potra, il y a ce paradoxe peut-être qui nous ramène à ce que vous évoquiez tout à l'heure, qui est qu'en effet, l'éthique peut peut-être apparaître comme un manuel de bonheur. Spinoza s'adresse au lecteur, il parle du chemin qu'il nous montre. Et en même temps, comme vous l'avez dit, et donc je voudrais qu'on revienne là-dessus maintenant, il y a cette forme un petit peu aride peut-être, je le dirais comme ça, puisque c'est donc à la manière des géomètres, c'est-à-dire un ensemble de démonstrations qui suppose qu'on doive dès le départ, en fait, enfin qu'on doive toujours prendre le livre par son début, traverser tout le chemin, suivre tout le chemin, toute la démonstration que Spinoza produit. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu contradictoire d'essayer de nous conduire vers la joie et la béatitude, de tenir compte quand même, comme nous l'avons dit, de notre sensibilité sous cette forme très particulière?
Oui, alors là, c'est pas simplement une forme pour moi. Ça n'a rien à voir avec une forme. Je refuse absolument, en effet, de considérer la forme de l'éthique comme indépendante de son contenu. C'est-à-dire que c'est ça ma thèse, si vous voulez, c'est que effectivement, Spinoza a cherché longtemps la forme qui serait adéquate à l'objet dont il parle, c'est-à-dire un objet qui est entièrement déterminé, vous avez raison. Donc, vous vous posiez la question de comment on arrive à produire les affects. Eh bien, on ne peut arriver à les produire que sous de cette façon-là, dont je me permets d'ailleurs de rappeler qu'elle n'est pas more geometrico, comme on le dit toujours, mais ordine geometrico, selon l'ordre géométrique. C'est-à-dire que, pour Spinoza, si c'est écrit comme ça, c'est parce que l'être humain, il fonctionne exactement comme les triangles. C'est-à-dire que le triangle a des propriétés, l'être humain a des propriétés, et tout va pouvoir s'expliquer de la même façon qu'en géométrie. Alors, comment est-ce qu'on produit? Je vais prendre un exemple puisque vous demandiez, vous penchiez sur les affects. Voilà un affect très simple, c'est la haine, d'accord?
D'accord.
Dont il donne une définition qui me semble tout à fait satisfaisante. Une tristesse accompagnée de l'idée d'une chose extérieure comme cause, n'est-ce pas? C'est simple. Je suis triste, c'est-à-dire je suis dérangé par tel individu, par exemple, et ce dérangement, c'est une tristesse, ça, c'est en effet une diminution de ma puissance d'agir, et je me dis, c'est lui. Si vous lisez l'éthique comme il faut la lire, c'est-à-dire si vous comprenez comme vous allez comprendre la démonstration du fait que la somme des trois angles d'un triangle est égale à deux droits, alors vous serez petit à petit, comme par la main, Et là, c'est entièrement déterminé par les démonstrations. Vous arriverez à l'idée que, eh ben oui, en réalité, il n'y a aucun libre arbitre. Je dis bien aucun. Donc, celui qui m'a giflé là, hein, et ce qui produit chez moi une tristesse, une colère, etc., je me dis c'est lui, et si j'ai été formé par les démonstrations précédentes, alors je me dis non. C'est lui, oui, mais ça n'est pas lui. C'est Dieu. Dieu, c'est quoi ? C'est la nécessité. Ça change tout. C'est une grande partie de l'éthique consiste à montrer comment et pourquoi, effectivement, ça peut tout changer. Donc, on se trouve modifié par la lecture. C'est ça, pour moi, la différence entre la forme géométrique de l'éthique et ce que j'appelais tout à l'heure le sermon. Le sermon ne me convaincra jamais, mais une démonstration géométrique, si je l'ai suivie, si je l'ai comprise et si je l'admets, elle me convainc. Et moi, un jour, j'ai été convaincu de cela, en effet, qu'il n'y a pas de libre arbitre, tout simplement. Et alors, à ce moment-là, ça change mon rapport total au monde, complet, c'est-à-dire, je vois les choses autrement.
Oui, mais c'est tout le problème. C'est-à-dire que si je peux comprendre que celui qui est en face de moi m'a giflé ne l'a pas fait par libre arbitre, mais a été nécessairement conduit à le faire, oui. Comment moi je peux me libérer, par exemple, de la colère ou de la haine ou de la peur
Parce que vous allez comprendre tout simplement que c'était nécessaire. C'était nécessaire. Qu'est-ce que vous pouvez y faire si c'est un libre arbitre que vous avez en face de vous? Vous allez vous dire que vous allez peut-être pouvoir changer cette affaire-là en changeant je ne sais quoi. Non, il faut, comme l'a rappelé Pascal tout à l'heure, opposer à la haine l'amour. Mais ça ne marche pas à tous les coups, voyez-vous. Et donc, par exemple, il n'y a pas moins de vertu à fuir le danger qu'à l'affronter. Donc, il faut devenir assez souple dans l'existence. N'est-ce pas ? Il faut, pour coexister, c'est difficile. Et coexister dans un monde où tout est nécessaire, où tous les actes de tous et de tout ce que nous faisons, nous 1, 2, 3, 4, dans ce studio, tout ça est absolument déterminé. Et je voudrais rappeler une chose, puisque à plusieurs reprises, le terme d'immanence a été évoqué. D'abord, cette immanence-là, c'est-à-dire la cause... Et la causalité divine est immanente, ça veut dire que Dieu produit ses effets non pas hors de lui, mais en lui. Alors, et en lui, ça veut dire que tout ça, là, tout ce que nous sommes, ce sont ça. Nous sommes les effets de Dieu. Et en réalité, bon, j'essaie de caser ça parce que j'y tiens, le fameux troisième genre de connaissance, qui est un voir... c'est-à-dire une science dite intuitive qui consiste à voir, eh bien ça consiste à voir en effet le monde comme ça. Le voir vraiment, vous, je vous vois en Dieu de toute éternité. C'est ça en quelque sorte la formule.
Alors peut-être c'est le moment d'expliquer exactement ce que ça signifie Dieu chez Spinoza, puisqu'en effet, vous l'avez dit l'un et l'autre à plusieurs reprises, la béatitude, elle se trouve dans l'amour de Dieu, et la définition, comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, de Dieu chez Spinoza est très particulière. Pascal Sévrac, qui est Dieu, si je peux dire comme ça, c'est-à-dire mal le dire.
Qui est Dieu oui, mais c'est toute la question, parce que vous demandiez... Comment on arrive justement à se défaire de ces affects si on n'a aucun libre arbitre? D'abord, aucun libre arbitre, ça ne veut pas dire pas de volonté ou pas d'intentionnalité. On peut vouloir mener quelqu'un à une fin, c'est ce que veut Spinoza, nous conduire comme par la main vers la béatitude, il le dit en préambule de la partie 2 de l'éthique. On a plein de projets dans la vie. Ce que nous dit Spinoza, c'est que cette intentionnalité, elle est elle-même déterminée par de multiples causes. Donc on n'est jamais cause libre, on est cause causée. Il n'y a qu'une cause libre, c'est Dieu. J'arrive donc à votre question. La plus mauvaise manière de percevoir les autres, c'est de les prendre comme des causes libres. C'est là qu'on va les absolutiser, alors qu'il n'y a qu'un seul absolu, c'est Dieu. C'est le seul réel. Les autres sont des portions de réel qui sont déterminées par d'autres portions de réalité. Et vous savez, penser les choses sous la catégorie de l'éternité ou de la pleine nécessité, c'est déjà se défaire de beaucoup d'affects qu'on polarise sur les gens en les pensant complètement responsables de ce qu'ils ont fait. Alors, d'un point de vue social ou imaginaire, on peut jouer sur le ressort de la responsabilité. Il y en a même qui sont affectés par des sermons. Ça marche pas sur Bernard, ça marche pas trop sur moi non plus, ça produit même l'effet contraire. Mais Spinoza serait pas complètement opposé, il le dit, à un salut collectif qui puisse passer par des formes de religiosité, peut-être même de moralisation des mœurs. Mais d'une certaine manière, c'est fragile. Quand on veut une véritable béatitude, il faut comprendre cette nécessité et la faire sienne. Et de la même manière que on va penser les autres comme étant déterminés, ce qui va faire qu'on sera un peu moins affecté par ce qu'ils font, parce qu'on replace ça dans le réseau nécessaire des causes. De même, on peut être déterminé, petit à petit, par notre rencontre avec Spinoza, par ma rencontre, moi, avec des enseignants, des profs, ça a été aussi une rencontre avec Bernard, on est déterminé par d'autres à modifier un peu son rapport affectif et cognitif au monde. On le fait jamais tout seul en se tirant par les cheveux quand on en a, à la manière du baron de Munchausen. On y est déterminé petit à petit. Alors c'est sûr que il faut instaurer politiquement les meilleures institutions et les meilleures causes qui vont faire que petit à petit la rationalité peut s'étendre et qu'on va être déterminé par d'autres à penser par soi-même. C'est une affaire commune aussi.
Oui, c'est là où la question du bonheur s'articule à la question politique. Il y a aussi d'autres textes de Spinoza que nous n'avons pas évoqués, le traité théologico-politique et le traité politique qui renvoient à cette question.
France Culture, avec philosophie, Aïda Ndiaye.
Nous avons beaucoup parlé de la béatitude et je voudrais que nous y venions maintenant puisque c'est ce sur quoi se termine l'éthique, là où l'éthique arrive, si je puis dire. Et Spinoza fait la distinction entre la béatitude et la félicité. Je vous propose que nous écoutions une lecture de Jules Barbier de nouveau de cette cinquième partie de l'éthique qui traite justement de la félicité.
Les corps humains étant aptes à un très grand nombre de choses, il ne fait pas de doute qu'ils peuvent être de nature tels qu'ils se rapportent à des esprits ayant d'eux-mêmes, ainsi que de Dieu, une grande connaissance, et dont la plus grande part, autrement dit la principale, soit éternelle, et par suite qu'ils aient à peine peur de la mort. Mais pour comprendre cela plus clairement, il faut ici bien noter que nous vivons dans un continuel changement, et que c'est selon que nous changeons en mieux ou en pis, que nous sommes dits heureux ou malheureux. Qui, en effet, est passé de bébé ou d'enfant à cadavre et dit malheureux ? Et au contraire, on met au compte de la félicité d'avoir pu parcourir tout l'espace de la vie avec un esprit sain dans un corps sain. Et en vérité, qui a, comme le bébé ou l'enfant, un corps apte à très peu de choses et dépendant au plus haut point des causes extérieures, a un esprit qui, considéré en soi seul, n'a presque aucune conscience, ni de soi, ni de Dieu, ni des choses. Et au contraire, qui a un corps apte à beaucoup de choses, a un esprit qui, considéré en soi seul, a une grande conscience de soi, de Dieu et des choses.
Alors, le Spinoza nous dit ici, qui a un corps apte à beaucoup de choses, a un esprit qui, considéré en soi seul, a une grande conscience de soi, de Dieu et des choses. On retrouve cette articulation entre l'esprit et le corps. Ce texte définit la félicité. Quelle est la différence entre la félicité et la béatitude, Bernard Potrat ?
Bon, il ne faut pas être, faut pas compliquer la vie à propos du rapport corps-esprit. Ce sont une seule et même chose.
D'accord.
Je le rappelle. Donc, c'est normal. C'est normal. Et effectivement, la félicité, on voit bien à quel niveau se situe la félicité. Nous sommes dans ce que je pourrais appeler en quelque sorte la prose de l'existence. La béatitude, c'est en effet tout à fait autre chose. La prose de l'existence, ça veut dire effectivement ce que Spinoza recherche pendant les quatre premières parties de l'éthique, véritablement, et le début de la cinquième partie. Oui, il s'agit de vivre et vivre bien, comme il le dit. C'est pour ça que d'ailleurs, il dit, on peut boire, profiter de la verdure, etc., dans des limites raisonnables. Et puis, il cherche à instaurer c'est très visible dans l'appendice de la quatrième partie, il cherche à tout prix à instaurer la concorde. Et c'est une grande dimension du bonheur. Et si tous les hommes vivaient sous la conduite de la raison, ça serait la concorde universelle, ça serait génial. Comme ce n'est pas le cas, il faudra une politique. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la béatitude, elle est le fruit du troisième genre de connaissance.
Qu'est-ce que c'est que le troisième genre
et
de connaissance?
Pour entrer justement dans le troisième genre de connaissance, c'est assez difficile, Spinoza le sait, car l'avant-dernière proposition d'Hélétique consiste à dire, je résume en quelque sorte, consiste à dire que ceux qui n'auront pas compris une partie de notre esprit est éternelle, que ça ne leur serve pas de prétexte pour considérer que tout ce qui précède est nul et non avenu. C'est-à-dire justement cette dimension de la prose de l'existence. Tout ce qui a été dit, des concepts, des affects qui sont bons, des affects qui sont mauvais, tout ça, c'est vrai. Bon. C'est pas parce que vous arrêtez là, vous n'avez pas compris que votre esprit est, au moins en partie, éternel. Ça, c'est quoi? C'est la proposition 23 de la cinquième partie de l'éthique. C'est-à-dire, il a prévu que des gens n'arriveront pas à comprendre la démonstration de la proposition 23 de sa cinquième partie. Bon, c'est pour ça que c'est ardu. Il faut croire que c'est ardu. Il l'a vu. C'est-à-dire que jusque-là, il a expliqué et démontré que le corps et l'esprit étant une seule et même chose, quand le corps meurt, l'esprit meurt. Ah ben non. Tout d'un coup, il y a un retournement absolument phénoménal. Et l'importance de ça, c'est que c'est seulement quand on a compris qu'il y a en nous une partie de notre esprit qui est éternelle qu'on va parvenir au troisième genre de connaissance, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une science intuitive qui est un voir et qui consiste à voir l'essence singulière des choses sous la catégorie de l'éternité, c'est-à-dire de la nécessité, c'est pareil, c'est-à-dire de la vérité tout court. Oui. Il s'agit de, je rappelle que le court traité qui est l'ébauche de ce que sera l'éthique, sous une forme en effet qui n'est pas géométrique, se culmine par l'idée que la béatitude, ou le Welstand, comme dit la traduction hollandaise, qui est la seule qu'on avait eue de ce texte, ça culmine dans l'union avec Dieu. C'est-à-dire l'union avec le monde, parce que Dieu n'est rien autre chose que le monde qui se donne à nous et dans lequel nous vivons. Ensuite, il renonce dans l'éthique à ça, mais ça consiste à voir toute chose en Dieu, c'est-à-dire sous son aspect d'éternité. Chaque chose singulièrement, c'est l'essence des choses singulières. Tant qu'on est sous le régime de la raison, on pense par loi. On n'est pas dans la singularité, on voit en général les êtres humains et on refait dans sa tête les démonstrations. Ah oui, mais c'est vrai que... Non, tandis que là, c'est très simple. Il y a, si vous voulez, un aspect d'illumination dans cette affaire-là. C'est ça que je crois. D'extase et de choses qui mériteraient d'être traitées longuement.
Et nous n'avons en effet plus beaucoup de temps. Et alors, d'après ce que vient de dire Bernard Potra, est-ce que c'est accessible à tous, Pascal Sevrac?
C'est accessible à tous, mais c'est très difficile d'y accéder. En fait, Spinoza nous dit, bon, il y a la félicité, c'est le bonheur que, bon, on se souhaite une bonne santé, un esprit sain dans un corps sain. Ça, il n'y a pas d'erreur là-dedans. Mais ce que vise Spinoza, c'est en effet quelque chose qui va au-delà de peut-être cette généralité, ou qui est un approfondissement de cette première vérité empirique. Et il s'agit d'accéder à un régime de pensée où, en effet, on comprend la singularité des choses comme pleinement positive. C'est très difficile, ça. On repense à l'objet de notre haine, là, celui qu'on trouve vraiment stupide et qu'on aimerait voir éliminé ou dont on aimerait diminuer la puissance. Comment penser cet être-là comme une expression de la puissance divine? Comment penser cet être-là, dans sa singularité, comme étant une positivité lui aussi? C'est un peu ça le troisième genre de connaissance. C'est-à-dire non plus penser les choses gouvernées par des lois générales, par des propriétés. Là, on est dans le deuxième. Si déjà on y arrive à ça, c'est déjà pas mal. On s'empêchera de les penser comme des causes libres. Mais ensuite, c'est, au fond, peut-être arriver à dépasser cette forme de pensée générale pour vraiment ressaisir la chose, cette nécessité-là, dans une singularité. Et c'est très difficile.
Oui, comme une pleine adhésion au réel.
Voilà, comme une expression du réel, dit Spinoza, comme une participation de ce réel, mais ou comme une partie, le fait d'être une partie du réel. Et tout un chacun est une partie pleinement positive du réel qui est à comprendre à partir de ce réel lui-même. Parfois, il est très difficile de penser cela de nos pires ennemis ou de gens dont on estime qu'ils sont plus imbéciles, dont on perçoit plus les limites que la positivité même.
Eh bien, nous allons nous arrêter sur ces paroles. Merci beaucoup à vous deux. Bernard Potra, je rappelle que vous venez de faire paraître à la Pléiade l'édition complète des œuvres de Spinoza que vous avez dirigées. Vous avez longtemps enseigné à l'École normale supérieure, notamment un séminaire consacré à l'éthique de Spinoza. Et Pascal Sévrac, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris-Est Créteil. Et votre dernier ouvrage paru est « Puissance de l'enfance, Vygotsky avec Spinoza » qui a été publié chez Vrin cette année, en 2022. Toutes vos références à vous deux sont disponibles sur la page internet de notre émission. Felicità, è tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, 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 è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità, felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità. E un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità. E una telefonata non aspettata, la felicità. 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 E una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità. E una mano sul cuore piena d'amore, la felicità. E aspettare l'aurora per farlo ancora, la felicità. C'était De circonstances, Felicità de Albano et Romina Power en 1982. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment.
Pourquoi ne veut-on pas tout savoir ? Le savoir n'est pas seulement, comme le terme semble le désigner, une connaissance objective construite pour elle-même dans la vie humaine, dans la vie des humains qui, certes, auraient besoin pour vivre de connaître le monde et aussi auraient les capacités de connaître le monde, d'accéder à la science, de connaître le monde pour lui-même et d'accéder à la vérité. Le savoir est aussi, chez les humains, l'objet d'un désir fondamental et paradoxal. À l'origine du savoir, il y a un désir humain très profond et très simple, celui que l'on appelle dans la vie ordinaire la curiosité, le désir de savoir qui s'insinue partout, de connaître le monde, mais aussi de regarder par le trou de la serrure ces petites curiosités, parfois étranges, qui animent notre vie comme ces grandes curiosités ambitieuses qui sont au fondement de la science humaine, de la découverte, de l'exploration, de l'encyclopédie. La curiosité, c'est le premier mot de la métaphysique d'Aristote. Ce désir qui fait du savoir une finalité de la vie humaine, l'objet d'une recherche, l'objet d'une quête. Les hommes, les humains, désirent savoir. C'est la première phrase de la métaphysique d'Aristote, comme d'ailleurs à la première phrase de sa poétique sur l'art, sur le théâtre, il y a « les hommes aiment l'imitation ». Chez Aristote, toute pratique humaine est l'objet d'un désir, d'une nature, d'une finalité qui nous apprend ce que nous sommes véritablement. Et de même, la dernière phrase de la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant renvoie à ce fait que les hommes désirent savoir, à cette curiosité profonde qui signale chez les humains, dit Kant, une destination métaphysique. Les humains veulent savoir, ils veulent tout savoir, ils ne veulent rien ignorer. Mais ce savoir théorique est encore un peu théorique. Est-il si neutre que cela? Des philosophes comme Nietzsche ont soupçonné derrière ce désir de connaître une volonté beaucoup plus vitale, beaucoup plus orientée, beaucoup plus pratique, une volonté de pouvoir. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Ce qui peut en tout cas compléter cette analyse du désir de savoir, c'est paradoxalement ses limites, non pas seulement objectives, car on ne peut pas tout connaître, mais ses limites subjectives, car peut-être ne veut-on pas tout connaître. Il y a aussi des choses que l'on désire ignorer, des choses que l'on ne veut pas savoir, comme lorsque quelqu'un dit à quelqu'un d'autre « je ne veux pas le savoir », quand il refoule la connaissance que pourtant quelqu'un d'autre lui met sous les yeux, peut-être parce qu'elle est désagréable, je ne veux pas en connaître. Il y a des choses que nous refoulons, la psychanalyse nous l'a montré, peut-être que nous ne voulons pas savoir que nous sommes mortels, que nous avons en nous du négatif, que nous pouvons être méchants, il faut pourtant le savoir pour ne pas l'être, que nous sommes animés par des forces, y compris positives, mais qui nous font peur, par exemple le désir lui-même et la sexualité. Nous ne désirons pas tout savoir et peut-être parce que nous ne voulons pas tout savoir de notre désir, de tous nos désirs. Et pourtant, il faut non seulement désirer savoir, mais connaître tous nos désirs pour précisément résister au négatif et faire servir le savoir à ce que l'on doit non seulement savoir, mais à ce que l'on doit vouloir, à ce que l'on doit désirer pour vivre heureux.
Merci Frédéric Worms. On peut réécouter votre chronique sur le site franceculture.fr. Et dans l'application Radio France, et c'est le cas également pour toutes les émissions d'Avec Philosophie. Cette émission a été réalisée par Laurence Malonda avec à la technique Jordan Fuentes. Elle a été préparée avec toute l'équipe d'Avec Philosophie, Jules Barbier, que vous avez entendu lire des textes, ainsi que Géraldine Mühlmann, Manon de la Selle, Chaïma Giboire, Carla Michel et Marie Viguier. Demain, pour le dernier épisode de notre série « Le bonheur ennuie-t-il les philosophes ?», vous retrouverez Géraldine Mühlmann qui vous proposera un grand entretien avec André Comte-Sponville autour de la question « La philosophie a-t-elle encore quelque chose à dire du bonheur ?».